pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
En anglais, ça s'appelle le rehoming. En français, il n'y a pas encore de mot, heureusement. Au sens littéral, euphémiser, ça veut dire le relogement, le replacement dans un nouveau foyer. En moins chic, c'est une pratique qui consiste à rendre les enfants qui ont été adoptés, à les remettre en quelque sorte sur le marché. Ça vient d'Amérique, ça n'a que quelques années, mais c'est étonnant. Et surtout, ça peut rapporter. Quelques sociétés s'en sont fait une spécialité juteuse. Ainsi, sur le site Second Chance Adoption, qui se défend d'ailleurs du terme rehoming, une vingtaine d'enfants sont présentés comme étant en attente, accompagnés de leur photographie et d'une petite description. Wyatt, 7 ans, précise-t-on pour le confort des parents, est propre, il s'endort facilement, il fait de bonnes nuits et ne vous réveillera pas la nuit. Pour en savoir plus sur lui, il faut s'inscrire et vous aurez son profil complet. L'avantage de Wyatt aussi, c'est qu'il coûtera beaucoup moins cher qu'un enfant de première main. Dans ce dernier cas, s'il a été adopté à l'étranger, il coûtera de 10 000 à 30 000 dollars aux États-Unis. Un enfant déjà adopté, ce sera deux fois moins, parfois même on pourra l'avoir gratuitement. Je n'ose même pas imaginer dans quel cas. Un forum de discussion qui a été fermé depuis proposait jusqu'en 2013 un enfant par semaine à la réadoption, allant parfois jusqu'à rehomer le même enfant plusieurs fois. Administrativement, l'affaire est simple puisqu'il suffit d'une procuration enregistrée chez un notaire pour que l'enfant soit confié à une nouvelle famille, qu'il soit inscrit dans une nouvelle école et que les nouveaux parents puissent par exemple toucher des allocations. Si l'enfant convient, on passera alors devant un tribunal pour une adoption complète et il y aura des contrôles pour savoir si la nouvelle famille est apte ou pas à le recevoir. Évidemment, ce que raconte en creux aussi le rehoming, ce sont des drames d'adoption ratés, des parents isolés, pas préparés, mal conseillés, une pratique de l'adoption devenue quasiment industrielle outre-Atlantique et si mal encadrée, si libéralisée que les ratages sont innombrables et les victimes tout autant. Mais pas sûr que le marché de l'occasion soit exactement la solution pour régler le problème de ces enfants. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, de l'autre côté de l'Atlantique, deux autres histoires sur le thème de l'adoption, un peu plus de chez nous, enfin pour le moment, par Valérie Borst avec une archive de Christophe Gallo.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis née à Paris, j'ai été adoptée là-bas. Et ensuite, nous avons habité pendant une bonne dizaine d'années à Villeneuve-d'Ascq. Avant, j'étais vraiment en dépression. Même si j'avais tout pour être heureuse. C'est certain que j'avais absolument tout pour être heureuse. Un mari, des enfants, tout va bien, des bons parents. Vraiment, tout était parfait, un bon travail. Mais il y avait toujours ce manque de ne pas savoir d'où je venais. J'ai pas compris pourquoi on rajoutait du secret au secret, à savoir que lorsque je commençais mes recherches et que j'ai retrouvé l'œuvre qui a récupéré ce qui est censé être mon dossier ou ce qu'il en reste, puisque je ne sais même pas ce qui reste, je me suis dit, mais pourquoi ajoute-t-il du secret au secret? Un jour, il y avait des éléments dans mon dossier, le lendemain, il n'y en avait plus. Parfois, la mère avait accouché sous X, mais avait laissé quand même quelques éléments. C'était incompréhensible. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que mes parents adoptifs se souviennent bien que lorsqu'ils ont rencontré l'assistante sociale, elle leur a dit « Vous savez, les enfants recherchent toujours. Mais rassurez-vous, jamais elle ne pourra retrouver. » Et mes parents adoptifs m'avaient raconté qu'ils avaient été surpris. Lorsque l'assistante sociale m'a mise dans la voiture qui allait m'emmener à Roubaix, elle m'a pris longtemps dans les bras et m'a embrassée longuement. Alors les parents étaient étonnés. Ils ont demandé pourquoi elle faisait ça. Et elle leur a répondu, « Ah bien, si je fais ça, c'est à la demande de la maman qui m'a demandé de le faire parce qu'elle l'aime beaucoup. » Alors, moi j'y ai cru. C'était quand même très structurant ce genre de démarche. Et en fait, quand j'ai retrouvé l'assistante sociale, j'étais effondrée parce que là, elle m'a dit, « Ah oui, mais ça, c'est le coup que je faisais à chaque enfant sur le départ pour que les parents aient une image positive de la mère. » Au début, quand j'étais toute petite, J'avais une dizaine d'années, on avait déménagé. Et un jour, mes parents adoptifs ont dit, tiens, l'assistante sociale est venue voir si tu étais bien installée, tout ça. Et à cette époque-là, je m'étais dit, c'est pas l'assistante sociale qui est venue, c'est ma maman déguisée en assistante sociale pour voir si je vais bien. Donc, certainement, quand j'étais petite, il y avait plus l'idée de la mère et pas du tout du père. Par contre, quand j'ai commencé mes recherches, c'était beaucoup plus l'idée du père, finalement, que de la mère. Parce qu'au début, il y a une période où on se dit, peut-être que cette dame était quand même bien gentille, mais à force de faire des recherches, de rien trouver, il y a un moment, en ce qui me concerne, de haine qui est arrivée. Et je me suis dit, au moins, je voudrais trouver le père. Parce que l'histoire qui avait été racontée aussi, c'était que mon père était vietnamien et que donc, il était reparti au Vietnam pour faire la guerre. Donc, dans mon esprit, encore d'enfant, même si j'en avais 35, c'était peut-être que ma famille au Vietnam a besoin de moi maintenant. Je suis peut-être le maillon manquant qui permettra d'aller aider la famille là-bas. J'avais un sentiment de devoir à accomplir vis-à-vis de cette famille plus loin. Je ne pouvais pas être stable dans la vie, avoir le sentiment de me tenir debout. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que pour un enfant né sous X qui recherche comme moi, je regardais dans la rue, j'allais dans une pièce n'importe où, systématiquement je dévisage les gens, où je dévisageais, pour savoir si dans la pièce ne se trouvait pas mon père, ma mère, un frère, un cousin, un oncle, qui sait. Ça peut être n'importe qui, n'importe où. Ça devient un réflexe. Regarder, dévisager, se dire, est-ce que ça pourrait être elle ou lui ? Je ne peux pas vivre avec des fantômes. C'est très difficile de se dire je vais mourir sans savoir qui étaient mes parents, d'où je viens, quelle est mon histoire et pourquoi est-ce qu'on a eu aussi honte de moi pour m'abandonner. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait qu'il a fallu que l'on m'abandonne ? Et non pas quels sont les éléments extérieurs qui ont fait que je sois abandonnée. À un moment, je me suis dit c'est pas possible, je suis tombée malade physiquement, très fortement. Je saignais de partout, à tel point que même lorsque je suis allée demander mon dossier à Lille, au Conseil général de Lille, ne l'ayant pas trouvé à Paris, puisqu'il était sans doute détruit, je sais que lorsque j'ai dit à la dame qui m'a reçue, je viens pour savoir si vous avez des renseignements sur ma mère, hop, automatiquement je me suis mise à saigner du nez devant elle, et ça ne pouvait plus s'arrêter. Moi, je me vidais de tous les côtés, j'étais malade. J'étais en train d'en crever, il n'y a pas d'autre mot. Il fallait faire quelque chose. Chaque année qui passait, c'était ouf, une année moins à vivre. C'est à attendre la mort. Parce que dans l'idée chrétienne, quelque part, on peut se dire, si je meurs, je vais au paradis, et de là-haut du ciel, je saurai enfin qui étaient mes parents. C'est vraiment ça. C'est voir passer les jours et se dire, jamais je saurai, c'est terrible. Dès l'instant où on retrouve ses origines, je crois que ça y est, la vie est belle. Enfin, pour moi en tout cas, puisque c'est une belle histoire. Alors, les retrouvailles se sont assez bien passées. C'est-à-dire qu'au début, la première rencontre n'a pas été faite avec Liliane, mais avec un petit cousin, parce que personne ne connaissait le secret de Liliane. C'est-à-dire que pendant 40 ans, seule elle-même et mon géniteur savaient que j'existais, sinon personne d'autre n'était au courant, vraiment personne. Et à un moment, elle a été gravement malade, et de ce fait, elle a eu besoin d'en parler au cas où, à un petit cousin. Et c'est ce petit cousin qui m'a reconnue à la télévision, puisque je suis passée à une émission un jour, et qui a dit mais c'est Liliane qui passe à la télévision. Et à ce moment-là, il a réalisé, non, c'est sa fille, elle la recherche. Et c'est comme ça que nous avons pu rentrer en contact. C'est le petit cousin que j'ai rencontré d'abord, et sa première phrase en me voyant, ça a été, mais c'est pas possible, c'est tout elle, même dans la façon de s'habiller, les mêmes costumes, c'est pareil, une photocopie. En fait, notre première conversation a eu lieu par téléphone et c'était assez froid. C'était assez froid parce que on ne se connaissait pas. C'est-à-dire, on ne sait pas comment on s'appelait. C'était bonjour, eux. J'allais pas dire madame. Ah, et donc, elle a répondu Ah oui, bonjour ma chère. Je n'ai rien répondu. Je me suis dit, allons, allons, ma chère, comment pense-t-elle l'écrire ? Donc ça a été un petit peu estomacant sur le coup. Mais c'est vrai qu'elle ne savait pas comment m'appeler. Elle me l'a dit elle-même. Elle m'a dit, écoutez, réfléchissez. Pendant 40 ans, je ne vous ai pas appelé Cathy comme vous appelez maintenant. Pendant 40 ans, je vous ai appelé Hélène, du nom de naissance. Puis, maintenant, on me dit que c'est Cathy. Bon, pourquoi pas ? Mais il faut le temps que je m'y habitue. Moi, j'étais un peu inquiète. Parce que ça pouvait être aussi la première et dernière conversation. J'avais déjà entendu des histoires qui montraient que ça pouvait mal se passer. Donc mon but, c'était de me dire, pourvu qu'on réussisse à se parler un peu et que je puisse aussi avoir des renseignements sur mon père, tant que j'y étais, puisque ça pouvait être vraiment la seule conversation de notre vie. Et il n'y avait aucune preuve, si ce n'est une ressemblance physique et une date commune. Donc c'est vrai qu'une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est « Tiens, mais au fait, si je vous dis, parce que nous nous voyions au départ, je sais une église, qu'est-ce que vous me répondez ?»« Ah, eh bien moi je suis répondre tout de suite. » Au fond d'un hameau dont le fin clocher se mire dans l'eau. C'est pas banal pour quelqu'un de 40 ans, je sais pas si vous auriez su répondre.
« Je sais une église au fond d'un hameau dont le fin clocher se mire dans l'eau. » Dans l'eau pure d'une rivière.
Ce qui est amusant, c'est que quelque part, sans s'être rencontrés, nous avions gardé contact peut-être par ce genre de musique. Elle me disait que si, elle chantait souvent ce genre de chansons à sa propre mère. Et voilà, c'est resté.
Quand tombe la nuit, faire une
pas spécialement gay comme chanson. Je sais pas pourquoi elle a eu cette chanson-là en tête, plus spécialement qu'une autre, mais c'est la première qui lui est venue à l'esprit. D'autres posent des questions du genre, est-ce que toi aussi tu as eu des varices à 30 ans ? Nous, ça a été « Connais-tu cette chanson ?» Ça dépend. C'est vrai qu'on a tout à découvrir l'une de l'autre. Et le premier jeu, c'est aussi de voir quelles sont les ressemblances pour s'assurer que, bon, on a quand même laissé un petit quelque chose à l'enfant. Elle pensait à moi régulièrement. Elle m'a dit, oh, ne croyez pas, quand même pas tous les jours, mais quand même très très souvent. Je pensais à vous, mais elle en a parlé à personne. Elle s'est mariée avec un monsieur qui était plus âgé et qui n'avait pas d'enfant non plus. Et elle m'a dit, oui, alors tous les ans, lors de votre anniversaire, j'ouvrais une bouteille de champagne. Mon mari devait se demander pourquoi ce jour-là, tous les ans, systématiquement. Mais je faisais la fête. Et je pensais, pourvu que ça aille bien pour elle. Donc elle m'a envoyé, comme elle dit, des bonnes ondes, le plus possible pour que ça aille bien pour moi pendant toutes ces années. Notre première conversation, puisque sachant que ça pouvait être la dernière, j'ai enregistré la première conversation que nous avons eue ensemble. Et puis voilà, mais je ne sais plus du tout où est cette cassette. Oh, elle doit être bien cachée quelque part. Ah bah voilà, tout au fond. Liliane, le 6 mars 2001. Voilà, la cassette. C'est pas comme la naissance, mais c'est la première conversation avec quelqu'un qu'on a quitté il y a 40 ans. Donc forcément, c'était un moment vital et qui reste très intime quelque part, même si on a dit des banalités. Je la ferai pas écouter, parce que c'est vraiment personnel. Par correction, il faudrait demander l'autorisation. Et c'est vrai que non, c'est pas... Non, on a une bonne relation, il faudrait pas la gâcher par une indiscrétion, après tout, on sait jamais.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors, moi j'avais 35 ans. On a fait quelques essais avec mon mari dans le but d'avoir des enfants, y compris avoir recours aux des techniques, on va dire, médicales. Ça n'a pas fonctionné. Donc on a décidé de se tourner vers l'adoption. Bah pour nous, pour moi, c'était le fait de fonder une famille, de pouvoir transmettre des valeurs, une philosophie de la vie, d'avoir des moments de joie. C'était quelque chose, oui, c'est peut-être une forme de but aussi dans la vie. Alors, c'est vrai, quand on s'est lancé dans ce projet, j'avais aussi conscience que quelquefois, quand on se dit, ben, on n'arrive pas à avoir d'enfants, ça marche pas, c'est assez connu d'ailleurs, des femmes font des démarches, ça fait 10 ans qu'elles essayent d'avoir des enfants, elles font une démarche d'adoption, l'année d'après, elles tombent enceintes. Ça se débloque, si je puis dire, voilà, dans la tête. Donc, j'ai aussi un peu pensé, quand on a démarré cette adoption. Mais bon, bah, c'est avéré que ça n'a pas fonctionné pour moi, en tous les cas, comme ça. Mais après, oui, je me dis que c'est comme si ce sont nos enfants. Même si on les a pas fabriqués, au sens scientifique du terme, je pense que la question se pose plus. Et il est vrai qu'on s'est dirigé vers une adoption dans une région de France, puisque c'est une région de France, c'est un pays, territoire d'outre-mer, en Polynésie, et pour des critères bien particuliers. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que l'enfant avait accès à ses origines et que les parents biologiques savent aussi, je dirais, du coup, auprès de qui est leur enfant, où il vit. Souvent, dans la tradition, effectivement, il est demandé qu'on leur envoie des photos et qu'on les tienne au courant de comment leur enfant grandit, comment il va. Voilà. Comme je dis souvent, si on ne sait pas où on va, au moins on sait d'où on vient. Et j'avais été frappée dans l'exercice de ma profession par un monsieur. Et quand je l'avais fait part, parce que j'avais besoin d'un congé en vue justement d'une démarche d'adoption, j'ai appris que ce monsieur qui avait donc à l'époque, on va dire, n'était pas très loin de la retraite, au moins plus de 60 ans, m'avait dit, vous voyez, moi, je suis un enfant adopté et je cherche encore qui sont mes parents d'origine. Et donc ça m'avait vraiment interpellée, je m'étais dit, bon, en tous les cas, si cet endroit du monde permet au moins à l'enfant qu'on adoptera, de savoir d'où il vient et de pouvoir un jour avoir accès facilement, à ses origines, ce sera parfait. Donc nous sommes rendus en Polynésie, nous sommes allés aux services sociaux, enfin je veux dire tout s'est déroulé sur place comme ça doit se faire sur le plan, je dirais, législatif, juridique. L'enfant vous est confié, mais pas en adoption, je dirais, complète entre guillemets au départ, mais il y a 2 ans où nous sommes titulaires d'une délégation d'autorité parentale. Et donc là, nous avait été donc possible que nous soit confié un petit garçon dont la maman était mariée, mais il avait eu un enfant hors mariage et qui souhaitait confier son fils à l'adoption. On a rencontré donc, moi je dis souvent, la mère de naissance de Gaspard, voilà. Et on a vu Gaspard au même moment. Gaspard était né quelques jours auparavant et moi je vois un couffin, ça me fait penser à un petit panier là dans lequel il y a ce bébé. Elle nous le confie et en fait il devient tout de suite le nôtre quelque part. Oui, il devient tout de suite notre enfant. Et c'est une vie qui commence, voilà, une vie pour cet enfant et puis une vie pour une famille. Là, je me souviens, parce qu'on est revenu, c'était donc courant février, et je me souviens un détail, c'est quand on est allé voir mes parents, il était effectivement dans son couffin, et il neigeait, on n'a pas pu monter jusqu'où ils habitaient avec la voiture, et il a fallu laisser la voiture en bas et monter à pied. Alors bon, en soi, ça c'est pas... Et moi, je me disais, mais il va mourir de froid. Donc je me voyais quelques temps auparavant en Polynésie. Et je me vois encore marcher dans la neige avec ce couffin à la main. Et puis, voilà, dans des... Voilà, ça c'est vraiment un souvenir qui m'est resté. Un jour... Quelqu'un me téléphone, il me semble que c'est tombé sur moi. En fait, c'est un monsieur qui avait eu une relation avec une femme polynésienne alors qu'il était marié, il vivait en Polynésie pendant quelques années, il était donc métropolitain, sa femme aussi. Il avait une aventure avec une femme polynésienne, il avait appris que cette femme avait eu un enfant à une telle époque, et il s'était demandé si, comme il avait eu une relation avec cette femme, il ne pouvait pas être éventuellement le père de cet enfant. Voilà, et qui donc il souhaitait le rencontrer au cas où il serait le père. Voilà, il souhaitait le rencontrer. Voilà. J'avoue que là, ça vous tombe dessus un peu comme, je sais pas comment vous dire là, comme un coup de massue sur la tête en vous demandant si vous rêvez. Et là, je crois que c'est un peu comme je suis maintenant. Là. Vous êtes un peu prostré en vous disant, mais je rêve, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire, c'est pas possible. On était rentrés de Polynésie, pardon, ça faisait plus d'un an. Ça faisait un an ou un an et demi, plus d'un an en tous les cas, c'est sûr. Oui, plus d'un an. Effectivement, un test de paternité a été fait, ils sont assez fiables. Il s'est avéré que ce monsieur était bien le père biologique de Gaspard. Et c'est là où il entreprend des démarches juridiques pour faire valoir ses droits, en disant que, d'une part, en faisant valoir qu'il s'agit d'une délégation parentale et pas d'une adoption plénière, comme ça se pratique là-bas, et que du coup, lui... tient à faire savoir qu'il en est le père de cet enfant et que c'est pas nous qui devons l'élever, mais lui. Puisqu'en plus, lui-même n'a pas d'enfant, d'ailleurs. Et souhaite en avoir. La loi, c'est que l'enfant reste en délégation d'autorité parentale jusqu'à ses 2 ans, date à laquelle est signée l'adoption. Il avait plus d'un an. Il avait pas, en tous les cas, il n'avait pas 2 ans. Là, c'est vrai que on s'est dit non, on va dire que c'est pas possible, quoi. Puis c'est, en fait, c'était notre fils. Et la justice a privilégié le droit du sang. Et donc, il s'est avéré que cet enfant ayant un père identifié, il devenait normal que ce soit lui qui l'élève et que ce soit plus nous. Après, ça a continué en justice, on a fait appel, puisque l'affaire est allée jusqu'en cassation, et où il nous a été sommé de... Alors, il y a un terme où j'ai du mal à l'exprimer, de rendre Gaspard à son père. Non, on n'a pris personne, nous. Moi, j'ai pas pris d'enfant, moi. J'ai pas volé de bébé, moi. Donc, on a refusé, et c'est pour ça que c'est vrai. Du coup, ça s'est très mal terminé, puisque ils sont venus, les gendarmes sont venus le chercher. Il avait 3 ans. Je me souviens du jour où ils sont venus, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas m'exprimer. C'est un vide, c'est un manque, c'est une injustice, on ne sait plus quoi faire, quoi dire. C'est comme si on nous avait retiré quelque chose de nous-mêmes. On était vidés, on nous avait pris une partie de nous-mêmes. Ouais, je me souviens, je n'arrivais pas à sortir de chez moi, j'avais beaucoup de mal. J'ai repris le travail assez rapidement. Oui, j'ai repris le travail assez rapidement. Bon, je me souviens qu'un jour, une de mes collègues m'avait dit, mais Delphine, t'es pas là, t'es pas présente, on dirait, là, t'es ailleurs. Et je pense que j'étais dans ces phases où des phases où ça, on est à vide, quoi. Et ça je m'en souviens, de moments où je sais pas si j'étais moi ou si j'étais quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Donc j'ai repris le travail et on a continué, oui, voilà, à vivre comme on a pu, du mieux possible. Voilà. Mais je n'ai jamais revu Gaspard. Et puis après, ben, on sait qu'il faut que la vie, faut que ça avance. Je pense que c'est la vie qui vous pousse en vous disant, ça c'est arrivé, mais ça va pas nous. On va se relever, quoi. On va avoir un autre projet et on va y arriver. On va arriver à fonder une famille qui serait pas celle avec Gaspard, qui serait une autre famille. Et donc, il s'est présenté le fait qu'on puisse adopter un autre enfant, et chose qu'on a faite par la suite. Je me sens pas aigrie, j'ai pas de ressentiment envers qui que ce soit, même envers le père biologique de Gaspard, je lui en veux pas. Après, ça n'empêche que pour nous, Gaspard est. Je vous le dis, j'en parle encore comme de mon fils, même si je ne l'élève plus. Gaspard est mon fils.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, né quelque part, un reportage de Valérie Borst avec une archive de Christophe Gallo, le tout réalisé par Marie Placet. Merci à Delphine et à Sandrine Chapron qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nul ne l'ignore, des commentaires, des réactions, des likes et des retweets. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux. Misunderstood.